du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, nous avons la joie de fêter la Sainte Famille, alors que nous sommes encore tout au regard de Noël. Nous faisons un saut dans le temps, puisque nous voici 12 ans après la naissance du Christ. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons au cours de ces jours, à la naissance et au premier jour de Jésus, jusqu'à la présentation au Temple. Alors pourquoi l'Église nous donne-t-elle de regarder cet épisode de la vie du Christ, qui est important parce que, en fait, à part le début, sa naissance, et les événements qui vont suivre, l'adoration des bergers, des mages, la fuite en Égypte, nous ne savons rien jusqu'au jour de sa prédication, c'est-à-dire à ses 30 ans. Cet épisode que nous avons ici à ses 12 ans, c'est le seul que nous ayons de la vie cachée de Jésus. C'est déjà important. C'est en fait un appel à regarder vraiment, essayer de contempler ce que signifie l'incarnation. Car ici, dans cet épisode, le Seigneur se fait vraiment l'enfant de la loi et il se fait l'enfant de ses parents, c'est ce qu'il nous montre. Et en même temps, il nous montre combien il dépasse et la loi et même ses parents. Ce sont donc les deux points de mon plan. D'abord, Jésus, sujet de la loi, et Jésus, sujet de ses parents. Tout d'abord, sujet de la loi, et il l'est vraiment, il veut l'être, il fait sa bar mitzvah, en hébreu ça veut dire fils de la loi, on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire qu'à 12 ans, un jeune juif se déclare, fait sa profession de foi solennelle, en quelque sorte, pour nous, et il se déclare le fils de la loi. Voilà pourquoi il vient au temple avec ses parents, qui étaient pieux, qui devaient y aller tous les ans, mais comme il a 12 ans, il monte au temple. 12 ans, c'est pas un âge anodin. 12 ans, c'est l'âge, on a lu l'histoire de Samuel, c'est l'âge où Samuel commence à prophétiser. 12 ans, ça va vous étonner, mais c'est l'âge du célèbre jugement de Salomon. On représente souvent, et on a un tableau ici qui représente Salomon jugeant, vous savez, entre les deux femmes qui prétendent être la mère de l'enfant vivant et pas celui du mort. Et Salomon qui juge, qui sait comment découvrir la vérité, il a 12 ans alors. 12 ans, c'est aussi l'âge de Daniel, du prophète Daniel, qui confond les accusateurs de Suzanne. 12 ans, c'est l'âge de la responsabilité devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur monte et lui se déclare sujet de la loi. S'il se déclare sujet de la loi, lui qui est l'auteur même de la loi, c'est qu'il poursuit son incarnation. Vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus dur à Noël. Il est facile de nous réjouir, il est facile d'avoir de l'émotion devant cet enfant de la crèche, car tout enfant qui naît dans le monde nous remplit de joie, c'est une bénédiction. Mais vous le savez bien, c'est pas ça Noël. Noël, c'est beaucoup plus qu'un enfant qui naît dans la crèche. C'est le monde qui se renverse, qui se bouleverse. C'est le Très-Haut qui se fait très bas, c'est l'incommensurable qui se donne à mesurer, c'est l'invisible qui se donne à voir. Là aussi, dans cet épisode, lui qui est l'auteur de la loi, qui est le Seigneur des Seigneurs, en qui tout a été créé, prend vraiment notre condition humaine dans toute sa vie et il va se faire, comme tout bon juif à son époque, le fils de la loi. Alors bien sûr, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Il est laissé par ses parents qui ne s'aperçoivent pas qu'il a fugué en quelque sorte pour rester dans le temple et qu'il se retrouve au milieu des docteurs de la loi. L'extraordinaire n'est pas qu'il pose des questions et qu'on lui en pose. C'est la manière habituelle d'enseigner pour les rabbins. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que les docteurs de la loi, pendant 3 jours, vont l'écouter, s'extasier, s'émerveiller de ses réponses. Le pape, dans son homélie de ce matin, a rappelé que s'étonner, s'émerveiller, c'est le premier acte philosophique. C'est la première attitude devant Dieu qui se manifeste avant de penser qu'on a déjà compris, avant de mettre la main dessus. Laissez-vous aussi vous émerveiller du Seigneur qui vous remplit de sa sagesse. Alors évidemment, en l'entendant se répondre, on ne peut, nous, que comprendre qu'il va manifester sa divinité, lui qui s'est vraiment fait homme, il va vraiment manifester qu'il y a quelque chose en lui de Dieu. Et dans nos familles, c'est une petite analogie, mais on peut en avoir un exemple. Car si les parents qui voient grandir leur enfant n'ont pas à s'étonner très habituellement de la nature des choses, c'est-à-dire qu'un enfant sourit, pleure, a faim, a soif, fait du bruit, dort, autant de choses naturelles et banales, il arrive aux parents de pouvoir s'apercevoir qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a une âme qui s'exprime, et souvent on peut être étonné, bouche bée même, de la réponse et des paroles si directes, si profondes des enfants. Il y a en chaque enfant quelque chose de bien naturel, il y a en chaque enfant, en chaque être, quelque chose de surnaturel qui, de temps à autre, affleure et manifeste son extraordinaire divinité. Mais voilà, chez le Christ, cette manifestation est telle que les docteurs en restent bouche bée. Voilà ce point important, Jésus a voulu continuer son incarnation tout au long de sa vie et se faire le fils de la loi. Mais il y a plus encore. Il a voulu se soumettre à une famille humaine qui nous est donnée de contempler aujourd'hui. Jésus est bien le fils de Marie. Il est le fils de la Sainte Famille à qui Joseph est remis, en quelque sorte, cette famille qu'il va garder. On le voit dans l'épisode que l'on lit, il est monté avec ses parents. Ce n'est pas parce qu'il va manifester quelque chose de sa divinité qu'il a décidé lui-même de monter, non. Là encore, il est soumis à ses parents, il monte à Jérusalem parce que ses parents l'ont invité à venir à ce pèlerinage. Il a l'âge maintenant et il va redescendre, chose encore plus étrange, avec eux également. On va même nous dire qu'il leur était soumis. Le Seigneur, toujours poursuivant son incarnation, se soumet, c'est-à-dire, stricto sensu, se met en dessous de ses parents. Vous le savez, c'est la condition des enfants, surtout des petits-enfants. Ils sont soumis, ils sont en dessous de nous, ils sont obéissants, ob audire, en latin, ça veut dire écouter d'en bas. C'est pour ça que les enfants sont obéissants, parce qu'ils nous écoutent d'en haut, nous qui leur parlons d'en haut, et c'est pour ça qu'ils peuvent, en levant les yeux, grandir petit à petit. C'est ce que le Seigneur fit, il a voulu grandir dans une famille humaine par la parole bonne que lui a donnée sa mère et son père adoptif qui lui ont permis de grandir. Mais alors, me direz-vous, est-ce alors un enfant normal, soumis à ses parents ? Oui, il a voulu l'être. Il a voulu acquérir de ses parents un savoir, lui qui pourtant est le Dieu des dieux. Il a tenu, dit saint Paul, il a renoncé à sa condition divine pour se faire homme. L'incarnation, mes bien chers frères, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas juste un moyen pour essayer de nous montrer une face humaine. Non, c'est un véritable mouvement du Seigneur qui s'humilie et qui vient au milieu de nous, pas juste pour nous montrer qu'il existe, mais pour vivre notre existence. C'est ça le bouleversement de l'incarnation. Évidemment, une fois de plus, il va donner une réponse extraordinaire. D'abord, vous avez remarqué qu'on le retrouve au bout de 3 jours. Le parallèle avec la résurrection est évident. Et c'est dans le temple. Cette résurrection concernera le véritable temple qui est son corps. Celui qui sera dans la lumière, vous le savez, à Saint-Roch, nous avons l'Arche d'Alliance, juste derrière, dans une chapelle volontairement mise dans la pénombre, car la lumière du monde, c'est le Christ ici éclairé dans cette chapelle de la Nativité. Et puis, c'est la sagesse qui lui est donnée, la sagesse qu'il manifeste, la sagesse de Dieu qui n'est pas celle des hommes, qui sera une folie aux yeux des hommes, aux yeux des païens comme des juifs, folie pour les païens et pour les pour les Juifs, ici, il va manifester sa divinité dans cette réponse cinglante à sa mère, question toute naturelle de la Vierge qui retrouve son enfant après qu'elle a pensé l'avoir perdu. Pourquoi nous as-tu fait cela, ton père et moi ? Nous étions inquiets. Et la réponse est un parallèle saisissant. Pourquoi vous êtes inquiétés ? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? Oui, le Seigneur tient cet équilibre magnifique de cette soumission à ses parents et de la manifestation de sa divinité. Alors, mes bien chers frères, devant ce mystère qui est le plus grand de la foi, le plus étonnant, le plus original, toutes les religions du monde savent que Dieu existe. Toutes les religions du monde savent que Dieu a un rapport avec la création. Toutes les religions du monde tentent un lien entre Dieu et les hommes et sa création. Nous sommes les porteurs bienheureux de cette connaissance de Dieu qui sait que non seulement il a un lien avec nous, mais qu'il est là. Il va une fois de plus, par sa volonté et sa parole vivante, rendre effective, réelle, substantiellement présente sa divinité, son humanité, son corps, son sang, son âme sur cet autel. C'est ça le grand secret des chrétiens, manifester l'incarnation du Christ dans la simplicité de notre vie. Voilà ce trésor que nous portons, que vous venez d'entendre et que vous allez recevoir. C'est le Christ lui-même, cette parole vivante. Puissions-nous, nous aussi, éprouver, comme le dit le pape dans son homélie, le manque quand 3 jours durant, peut-être, nous n'avons pas prié le Seigneur Jésus. Qu'il nous soit un manque vraiment pour creuser notre cœur et pouvoir, comme Marie, garder et conserver ses paroles dans son cœur. C'est l'attitude de la contemplation la plus fondamentale, celle qui a permis à Marie d'engendrer le Christ. Que Dieu nous donne aussi d'engendrer le Christ au monde par la parole que vous allez recevoir et garder dans votre cœur. Ainsi soit-il.